nationalité belge. C'est-à-dire que s'il a la nationalité française, ça va être imposable en France, et donc il devra revendiquer l'exonération de la pension.
Même pour être très clair, et c'est une question que nous pose Louis d'ailleurs, qui à mon avis vient d'être retraité, parce qu'il demande si, étant retraité, il doit encore déclarer ses revenus de pension comme des revenus... voilà, bon, ça c'est important à préciser. Encore une question sur les pensions, Sophie Brems, vous en avez...
Pouvez-vous me dire si je dois payer des impôts en Belgique si j'ai travaillé et logé en France en 2021, tout en étant domicilié en Belgique.
Alors ça, c'est pas sur les pensions, mais c'est sur ça, c'est compliqué.
Sur la résidence, en fait.
Il a travaillé et logé en France l'année... C'est Virginie, elle a travaillé et logé en France en 2021, mais elle est domiciliée en Belgique.
Oui, alors s'il est domicilié en Belgique et qu'il travaille en France, il y a deux choses en fait dans la question. Il y a un problème de domiciliation, s'il reste vivre effectivement en Belgique, si son foyer est en Belgique, oui. Il est résident belge, donc il est bien à l'impôt des personnes physiques. Et puis s'il travaille physiquement en France, là c'est la présence physique en France qui va faire que la rémunération est imposable en principe en France.
En fonction du nombre de jours.
En fonction, voilà, mais de toute façon c'est imposable en France, mais ça n'empêche pas que s'il est résident, il doit quand même la déclarer en Belgique.
Voilà, bon, voilà. Un cas très, très spécifique. Deux questions aussi sur Airbnb. Je pars de temps en temps en mission de quelques jours à l'étranger pour mon employeur. Quand c'est possible, je mets mon appartement en location sur Airbnb. Ces revenus, comment les déclarer de manière optimale? C'est Gaston et il y en a d'autres qui ont posé également la question.
Géraldine Orny, sur ces revenus que l'on a quand on met une partie ou toute son habitation sur Airbnb en location, est-ce que c'est taxé?
Oui. Oui, ce sont des revenus.
Oui. Donc, c'est taxé.
Donc, la plateforme Airbnb fait très bien son travail d'ailleurs et retrace en fait toutes ses locations et met un rapport annuel avec tous ses revenus. Et effectivement, ils sont à déclarer dans la déclaration fiscale annuelle et il y a bel et bien une taxation sur ses revenus Airbnb.
Voilà, il y a une case prévue pour... C'est pas une case Airbnb, Nicolas. J'imagine que c'est une case plus large sur ce qu'on appelle l'économie collaborative.
Comme souvent en fiscalité, c'est compliqué.
Ouais.
Donc la base, c'est que c'est en principe un revenu immobilier. Donc on est dans les codes 1106. Dans le cadre relatif aux revenus immobiliers. Et puis après, si on fait de Airbnb son métier, finalement, les opérations deviennent vraiment très régulières et très récurrentes et qu'on a 10 Airbnb et que, enfin voilà, un cas beaucoup plus large, là, les revenus pourraient se voir requalifiés en revenus professionnels. Donc tout dépend évidemment de l'ampleur de l'activité.
Alors encore une question sur les pensions. Quelqu'un nous dit « Je suis pensionné et je travaille en flexi-job à présent. Je suis exonéré d'impôts jusqu'à 6 240 €, c'est précis. Dans quelle case dois-je mettre la somme totale? Est-ce que c'est dans la case 250 comme quand je travaillais? Est-ce que c'est dans la même case que les revenus que cet auditeur percevait quand il travaillait? Ah, alors là, c'est une colle apparemment.
Mais en fait, j'entends 6 240 €, je me dis, est-ce qu'on n'est pas justement dans quelque chose comme l'économie collaborative?
C'est pour ça, quel est le contrat finalement? Oui. Est-ce que c'est réellement un flexi-job? Parce que logiquement, le flexi-job est un revenu professionnel déclaré sur fiche. Donc logiquement, ce serait une fiche 290, qui sont des revenus professionnels en 1250. Mais effectivement, quand on entend, il faut vraiment savoir
quel type de contrat, on a à faire. Et c'est exactement. Effectivement important quand on est pensionné, parce qu'il y a des règles de ça. Sophie Brems, d'autres questions d'auditeurs?
Pourquoi mon prêt pour rénovation de mon habitation conclu en 2016 ne peut plus être déduit depuis 2020 alors qu'il court jusqu'en 2026, c'est un auditeur assidu qui nous pose cette question. Donc il a un prêt pour rénovation de son habitation conclu en 2016. Il ne peut plus être déduit depuis 2020 alors qu'il court encore sur plusieurs années.
Je pense que cette personne a eu de la chance parce que sur le plan des principes, la rénovation depuis 2016, qu'on soit d'ailleurs dans n'importe quelle région, pour un nouveau prêt ne donne pas droit à un avantage fiscal. Puisque, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est uniquement l'acquisition ou la construction. La rénovation n'entre pas en considération, quelle que soit la région dans laquelle on réside. Ce qui veut dire que cette personne a eu la chance, il n'a pas été contrôlé.
Juste préciser, en termes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions concernant ces déductions d'emprunt, il faut toujours rester sur base de l'origine du crédit et du bien, en fait, dont on parle. Donc, finalement, si ça avait été un crédit réalisé en 2016 pour l'acquisition du bien, je veux dire, le principe de déduction est acquis. Si rien ne change pendant toute la durée, finalement, du crédit, le régime ne change pas.
Alors, autre question concernant les familles, on a beaucoup aussi, les gardes d'enfants, etc. Et puis Benjamin Askerbé qui nous demande, je vais avoir un enfant en 2022, donc cette année, faut-il le mettre à charge du plus petit ou du plus gros salaire du couple, sachant, j'imagine, qu'ils ne sont pas mariés et que donc ils ont deux déclarations différentes. Ils mettent l'enfant à charge chez le plus petit salaire ou chez le plus gros salaire, Géraldine Orny, c'est quoi le plus intéressant?
Déjà, s'il est né en 2022, il ne sera pas à charge pour l'exercice 2022,
ce sera l'année prochaine.
Donc déjà, c'est ça.
Quelqu'un de prévoyant qui se pose déjà la question.
Voilà. Alors, j'ai envie de dire, par rapport à la charge fiscale, à partir du moment où ils ont des revenus tous les deux, fondamentalement, ça ne va rien changer qu'on le mette d'un côté ou de l'autre. Parce que la quotité calculée est la même, en fait. Voilà. Alors, évidemment, s'il y en a un des deux qui n'a pas de revenus, ça, c'est différent. Oui. Et s'il y en a un des deux qui n'a pas de revenus, là, il faut le mettre chez celui qui a des revenus.
Qui a des revenus, exactement.
Ouais. D'accord. Sophie Brems, encore quelques questions. Il nous reste deux petites minutes.
Alors, autre question. Je suis salariée dans le domaine culturel. Il m'arrive de siéger dans des commissions et d'avoir une petite participation rémunérée, hein, un jeton de présence, oui, comme on dit. Est-ce que je dois, afin de ne pas être considérée comme indépendante, complémentaire, est-ce que, dans quel cas, je dois remettre... Donc, c'est
très précis aussi, ça, évidemment.
Je veux dire, ça reste une rémunération, hein, donc ça, c'est à déclarer en partie 2 de la déclaration. Maintenant, pour ne pas être considéré comme indépendant, je ne vois pas vraiment de solution. Maintenant, si c'est pour ne pas devoir payer de cotisations sociales, je veux dire, il y a des montants aussi maximum à ne pas dépasser. Donc, si cette personne a un jeton de présence une fois de temps en temps, je veux dire, par an, qui ne dépasse pas les budgets, je veux dire, elle ne sera pas impactée. Maintenant, il est clair que par rapport à son statut social, ça pourrait être une complication.
Ouais, voilà, j'espère qu'on a répondu à en tout cas un maximum de
beaucoup.
Questions. Il y en avait beaucoup, c'est impossible de faire le tour. Il y en avait des très techniques aussi. Merci en tout cas d'avoir su rebondir ce matin, Nicolas Ronron, inspecteur des finances au SP Finance, et Géraldine Orny, experte comptable. Merci à vous pour vos lumières. L'opération se poursuit au 02 73 73 777.